Aujourd'hui, épisode spécial Thomas Cup. Vous connaissez maintenant le fonctionnement. On va parler groupe après groupe en se focalisant forcément sur l'équipe de France. Et on va finir sur nos petits pronostics sur la compétition. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de... 21. Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational. I'm the bad guy. Take that! Et je suis avec Benoît. Salut Benoît.
Salut Ewan, bonjour à tous.
Benoît, c'est une situation assez particulière dans laquelle on se trouve dans le monde du bad, puisque d'habitude la Sudirman et Cup et la Thomas Huber Cup sont décalées. Mais là, ça fait moins d'une semaine que la Sudirman est terminée, on va déjà attaquer la Thomas Cup.
Ah oui, clairement, en est royal, JO, Sudirman, Thomas Huber et Mondiaux, ça arrivera peut-être qu'une fois... dans les 20 prochaines, 40 prochaines années, et c'est cette année, donc c'est super cool.
Parce que voilà, la Thomas Cup aurait dû se jouer l'année dernière, en 2020, elle a été reportée d'un an à cause du Covid. Benoît, au-delà de ce report, le fonctionnement reste le même, est-ce que tu peux nous le décrire assez rapidement pour ceux qui ne seraient pas au courant du fonctionnement de la compétition ?
C'est assez simple pour le coup, il y a 4 poules de 4 équipes, donc en l'occurrence il y a une poule où il y aura 3 équipes puisque l'Angleterre a déclaré forfait. Les deux premiers sortent de poule pour faire quart de finale, demi-finale et finale ensuite.
Voilà, contrairement à la Sudirman Cup, oui, je précise avant de commencer, on fait des épisodes séparés pour la Thomas Huber Cup, donc on va sortir deux épisodes différents. Si vous écoutez ce podcast le jour de sa sortie, la Huber Cup sort demain, mais sinon vous pourrez aller l'écouter, on fera la même chose. Contrairement à la Sudirman Cup, l'équipe de France sera présente en Thomas Huber Cup, donc on va se focaliser maintenant sur l'équipe de France masculine, qui est celle-ci. 8 joueurs ont été sélectionnés. Thomas Junior Popov, Thomas Rouxel, Christo Popov, Arnaud Merclé et Alex Lanier. Ça, c'est pour les purs, enfin pour les joueurs de simple. Et en double, Tom Jiquel, Fabien Delrue et William Villéger. Benoît, il y a plusieurs absents, mais l'absence, on va dire, la plus marquante, celle dont on n'a pas l'habitude en équipe de France, c'est bien celle de Brice Leverdez.
Effectivement, peut-être qu'on l'a beaucoup dit sur les dernières compétitions par équipe, peut-être que le flambeau, ça y est, il est passé en fait. C'est peut-être là vraiment, même si la Sudirman, je pense que ça aurait été la même chose si la France était venue, mais là vraiment, voilà. Faut se dire que l'ère Brice Leverdez en équipe de France, elle est peut-être terminée. Et je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que cette équipe a fière allure.
Ouais, pour revenir sur ce que tu disais sur Brice Leverdez, c'est un peu particulier parce que ni lui ni la Fédé, à ma connaissance, n'ont fait d'annonce comme s'il va continuer ou pas. Mais pour l'instant, effectivement, ça ressemble quand même à une petite page qui se tourne. Ouais, cette équipe a fière allure, elle est très très jeune. Donc on a Thomas Rouxel qui a 30 ans, et sinon, les 7 autres ont moins de 23 ans. Donc une équipe de France très très jeune. Notamment représenté par Alex Lanier qui avec ses 16 ans qui fera office de plus jeune de l'équipe, mais ouais, Benoît, on va pas se mentir, on les suit depuis qu'ils sont jeunes, mais on savait que les frères Popov et notamment Arnaud Merclé seraient amenés à porter l'équipe de France, et c'est maintenant quoi.
Bah, c'est leur vraie première compétition où tous ces jeunes, parce que ouais, tu dis les frères Popov, Arnaud Merclé et même Tom Jiquel, pour moi là vraiment c'est maintenant eux les leaders en fait, et en quelque sorte, même si tu l'as dit, ça n'a pas été officialisé que Brice Leverdez ne reviendrait pas en équipe de France ou ne rejouerait pas, on ne sait pas. Là, c'est leur heure, donc il y a encore Thomas Rouxel qui fait office de vétéran dans cette équipe alors qu'il a que 30 ans, mais effectivement, c'est le moment de montrer qu'ils ont les épaules en fait pour porter l'équipe de France pendant, on le souhaite, 10 ans et plus.
Et au niveau de la compo, alors le format, on a 3 simples et 2 doubles. Bon, pour les 3 simples, du coup, il y a Alex Lanier, je sais pas s'il va jouer, mais il est un peu plus en retrait, mais je pense que du coup, le staff pourra jouer entre les 4 autres. Thomas Rouxel jouera peut-être pas toutes les rencontres, notamment. Après, au niveau des doubles, qu'est-ce que tu vois ? L'avantage des frères Popov, c'est que c'est aussi une bonne paire de doubles. Tom Jiquel, lui, il est excellent, mais il a pas de partenaire. Donc, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu vois comme paire de doubles pour cette équipe de France ?
Celle qui me semble la plus évidente, c'est les frères Popov. Mais peut-être que si les frères Popov jouent en double, ils ne joueront pas en simple. En vrai, c'est pas facile parce que Tom Jiquel, j'aurais tendance à dire qu'en termes de talent pur, c'est peut-être le meilleur joueur de double, mais tu l'as dit, il n'a pas de partenaire attitré. Donc, est-ce que tu fais confiance à Del Ruvillégé, qui quand même se connaissent maintenant et qui commencent à performer? Ou est-ce que tu fais jouer Tom Jiquel avec Fabien Delrue ou William Villéger? C'est une vraie question. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on va voir Tom Jiquel quand même, parce que je pense que si tu l'as amené, bah, c'est aussi pour le faire jouer. Je pense qu'il a, il a largement sa place, même si il joue pas en double homme à l'international.
Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que Tom Jiquel, t'es obligé de le faire jouer. Le truc, c'est avec qui, effectivement. Donc ouais, il peut jouer avec Delrue ou Villéger, je pense que ça peut être pas mal. Je sais pas, est-ce que tu penses qu'il peut jouer éventuellement avec Thomas Popov, avec qui il a joué en junior, ou alors ils vont privilégier l'entente entre les deux frères?
C'est carrément possible qu'il joue avec Thomas Junior Popov. Moi, ça me surprendrait pas. Enfin, on va pas se leurrer. La France vient aussi là, comme on a vu beaucoup d'équipes sur la Sudirman, pour se tester. Hein. C'est une équipe très jeune. Alors oui, il y a des ambitions parce qu'il y a du talent, mais je pense qu'on va voir des expérimentations un peu, notamment au niveau des paires de doubles.
Voilà. Et Benoît, est-ce que moi, la vision que j'ai, c'est que l'objectif pour la France, ce sera de sortir de la poule, c'est-à-dire de finir dans les deux premières. Après, ce sera du bonus, mais sortir de poule, ce serait déjà vraiment pas mal.
Bah, c'est clair, c'est déjà un objectif. Moi, j'aurais tendance à dire plus, même si je doute pas une seule seconde que cette équipe, elle est ambitieuse. On va parler des autres équipes juste après, mais il y a quand même deux. Je pense qu'il y a quatre équipes qui peuvent se dire, nous, on veut sortir de poule. Donc, clairement, la France fait partie de ces quatre équipes, mais aura fort à faire.
Voilà, bah on va en parler tout de suite. C'est vrai que la France est dans la poule B, et c'est vrai que c'est une poule assez équilibrée avec donc la France, le Danemark, la Corée du Sud et l'Allemagne. Donc on va prendre rapidement les équipes les unes après les autres, à commencer par l'Allemagne qui a amené un effectif pléthorique, notamment peut-être lié au fait qu'ils sont à domicile. En simple, on aura du Victor Axelsen, Anders Antonsen, Rasmus Gemke, Hans Christian Vitingus et Victor Svensson. Et après, au niveau des doubles, on aura la paire Astrup Rasmussen, la paire Beimoled, la paire Kolding Sogard et Mathias Christiansen, un peu en joker. Benoît, cette équipe, sur le papier, que ce soit en simple, enfin en double, mais surtout en simple, elle a fière allure, parce que si Gemke est apte, t'as trois joueurs top 12 mondial, peu de pays peuvent se targuer d'avoir cette chance.
Ouais, clairement, de toute façon, enfin, j'invente rien quand je dis que le Danemark, même à l'échelle mondiale, c'est le seul pays européen qui a remporté la Thomas Cup. C'était maintenant il y a deux éditions. Je pense que ça va peut-être pas être le cas cette année, mais voilà, le Danemark reste la meilleure équipe européenne et de loin. Et puis l'effectif qu'ils ont, honnêtement, tu t'as parlé du simple, mais même en double, c'est loin d'être ridicule. Franchement, je pense qu'ils vont être sympas à regarder. Dans cette poule, pour moi, je sais pas ce que t'en penses, mais ils font quand même office de grands favoris.
Ouais, moi aussi. Pour le double, je suis plus réservé. Je pense qu'il n'y aura pas de souci pour sortir de poule. Par contre, face aux grosses nations, on verra ce que ça donne. Mais en double, pour moi, c'est là où ils se sont le plus affaiblis par rapport à l'équipe qui a gagné il y a 5 ans maintenant. Parce que voilà, t'as plus de Konrad Kolding. Enfin, il reste Kolding, mais t'as plus de Bo Mogensen. Surtout Bo Mogensen qui te rapportait pas mal de points. Et on verra ce que donne Astrup Rasmussen en tant que paire numéro 1, mais face aux grosses équipes en double, ça va me paraître un peu léger, je pense.
Oui, clairement, je suis même pas sûr que Bo Mogensen joue la finale il y a 5 ans. Non, effectivement, je te confirme, Bo Mogensen ne jouait pas la finale il y a 5 ans. Donc, mais bon, Astrup Rasmussen, c'était ta paire numéro 2 il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est ta paire numéro 1 et derrière, c'est plus compliqué, t'as raison. Là, la force viendra pour moi du simple et tu l'as bien résumé, je pense qu'ils seront au-dessus de beaucoup de pays. Trois joueurs dans le top 15 mondial, il n'y a pas beaucoup, on va en parler, mais il n'y a pas beaucoup de nations qui pourront présenter autant de joueurs aussi forts.
On va passer au deuxième adversaire, la Corée du Sud. Je ne vais pas citer tout le monde, mais je vais notamment citer le leader de simple, Eo Kwang-gi, dont on a beaucoup parlé dans notre épisode de la semaine dernière sur la Sudirman Cup. En termes de paire de double, on aura notamment du Choi Seo derrière, c'est un peu moins connu. On a notamment Kang Kim. Et en simple, on a aussi Hyeok Jin, qui a été dans le top 20 mondial maintenant. Je ne sais pas son classement actuel. Benoît, qu'est-ce que tu penses de cette équipe? Ils ont une très bonne paire numéro 1 et un très bon joueur numéro 1 qui est surtout en bonne forme. Derrière, c'est un petit peu plus compliqué.
C'est compliqué parce que Jeon Yeok-jin, qui avait d'ailleurs performé une année aux IFB, a été blessé très longtemps. On ne sait pas vraiment dans quelle forme il est. Donc déjà, ton simple homme 2, voire 3, t'as pas de certitude. En double, t'as peu de certitude aussi sur ton double homme 2. Maintenant, faut se dire qu'il y a des joueurs de talent quoi qu'il arrive. Et faudra se méfier en fait, parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre avec la Corée, mais... Mais je sais pas ce que t'en penses, on sait que de toute façon c'est des joueurs qui potentiellement peuvent taper du top 50 tous les jours.
Voilà, c'est ça. C'est autant quand tu joueras l'Allemagne, là je me mets du point de vue de l'équipe de France, tu sais un peu à quoi t'attendre. Autant quand tu joues la Corée, c'est vraiment l'inconnu. Et c'est sûrement une des rencontres qui sera décisive pour l'équipe de France, pour faire partie des deux premiers, parce que je pense, on en reparlera juste après quand on fera nos petits pronostics, mais je pense que la place numéro 1 elle est réservée par le Danemark. Mais ouais, la Corée, c'est vraiment l'inconnu. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On sait même pas trop quels pairs vont jouer. Donc voilà, on verra. Et le dernier adversaire, je l'ai cité, c'est l'Allemagne. Les joueurs de simple, on les connaît. C'est Max Vekerschen, Kai Schaefer, Fabian Ross. Et la paire de double numéro 1, ce sera Lamsus Seidel, qu'on voit beaucoup à l'international. Du côté du simple, je pense que l'Allemagne a l'avantage d'avoir plusieurs bons joueurs, mais l'inconvénient d'avoir aucun excellent joueur l'ancien joueur.
Mark Zwibler.
Mark Zwibler, qu'est-ce que t'en penses?
C'est clairement ça. T'as des joueurs moyens plus, on va dire, moyens, mais t'as aucun joueur qui sort du lot. Je pense honnêtement que, du point de vue de l'équipe de France, encore une fois, tu peux te dire que logiquement, sur le papier, tu peux prendre les trois matchs simples, en tout cas, je pense.
Alors qu'en double, pour le coup, c'est l'inverse. Ils ont une très bonne paire, Lamsus Seidel, mais derrière, ça va être plus compliqué pour eux.
Oui, parce que Janssen, si je suis surpris, dans la liste, là, j'ai pas vu son partenaire. Ça devait être Kessbauer, peut-être. J'ai un petit trou, mais... Alors que là, je vois pas son partenaire habituel, je sais pas si j'ai raté une info, mais en tout cas...
Non, je le vois pas non plus dans la liste, peut-être une blessure, mais en tout cas ouais, derrière du coup ça va être plus compliqué pour les...
T'as une seule certitude, c'est ton double homme numéro 1 en fait.
Alors Benoît, prono time, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu vois comme classement de cette poule B?
Danemark intouchable, je vois bien l'équipe de France sortir devant la Corée, et je pense que l'Allemagne honnêtement est quand même un ton en dessous de tout le monde dans cette poule et terminera quatrième. Dis-nous, j'ai hâte de savoir ce que t'en penses, parce que je pense qu'il peut y avoir duel pour la deuxième place.
Ouais, je suis exactement d'accord avec toi. Je pense que Danemark en 1 et Allemagne en 4, c'est quasiment une certitude. Par contre, derrière, ça va être compliqué. Allez, je vais faire mon optimiste et dire que la France va battre la Corée. Mais j'ai honnêtement beaucoup de mal à le voir. Je me dis que la Corée contre nous peut tenter quelque chose, tu vois, imaginons, je sais pas, séparer Choi et Seo pour essayer de prendre les deux doubles ou quelque chose comme ça. T'es pas à l'abri de ça, quoi.
Oui, c'est clair, mais en même temps, séparer Choi et Seo, à quel point ils peuvent connaître un autre gars, sachant que toi, quand même, t'as deux paires qui sont pas top 10 mondial, ok, mais qui se connaissent quand même, donc tu vois, ça peut aussi être à double tranchant et la Corée peut perdre les deux doubles. La Corée va peut-être être obligée de tenter un truc comme ça, en tout cas.
Ouais, ce qui me donne un peu espoir, c'est la mauvaise forme actuelle de Choi Seo. Donc c'est ça qui me fait un peu espérer. Donc voilà, c'est entre les mains de l'équipe de France maintenant. Je pense qu'aucun de nos joueurs actuellement ne partira favori contre Eo Kwang Hee. Par contre, t'es obligé de gagner les deux autres simples. C'est comme ça que je le vois, en tout cas. Maintenant, on va prendre donc les poules dans l'ordre et vous faire un peu la même chose. Peut-être on va s'attarder moins que la poule de l'équipe de France, mais on va quand même voir ce que ça donne. Tout de suite, la poule A.
I'm the bad guy.
Take that.
Alors Benoît, la poule A, où on retrouvera l'Indonésie, Taïwan, l'Algérie et la Thaïlande. On va commencer avec les effectifs et notamment celui de l'Indonésie. L'Indonésie, j'ai envie de dire que ce soit en Uber Cup, mais surtout en Thomas Cup, vu l'effectif, c'est un peu mission rachat après une Sudirman ratée. Et Benoît, il y a largement de quoi, parce que quand tu vois les joueurs qu'ils vont amener, notamment Ginting, Christie, Gideon Sukamulyo, Hassan Setiawan, Alfian Ardianto et j'en passe, ça fait quand même un peu rêver.
Oui, clairement, c'est une équipe que j'ai vraiment... Enfin, j'ai hâte de les revoir parce que je pense qu'ils doivent se racheter. clairement, de, je pense aux joueurs de simple, je pense à Gideon Sukamulio. Maintenant, si on parle de talent, juste de talent, cette équipe, elle est monstrueuse. Leur seul point faible, peut-être que tu me rejoindras, c'est leur simple homme 3. Difficile de savoir vraiment quel niveau ça aura, surtout si ça vient sur un cinquième match. Maintenant, les quatre autres matchs, tu peux les remporter tous les jours presque.
Ouais, et encore, leur simple homme 3, c'est quand même Rustavito, oui. Je pense, a priori, qui jouera. On a quand même fait largement pire, mais c'est vrai que c'est pas le même niveau que Ginting et Christie. En fait, moi, pour moi, là, c'est un peu l'inconnu, parce que je pense que il n'y a pas que l'aspect psychologique. Enfin, je pense qu'il y a certains joueurs, notamment Christie ou Gideon Sukamulio, qui en ce moment, dans la tête et peut-être aussi physiquement, sont pas au top. Et c'est plutôt ça, pour moi, la grande inconnue.
Oui, c'est clair que je pense qu'en plus de ça, tu amènes Carnando Martin, qui commence à performer et qui sont très jeunes. Peut-être qu'eux aussi auront du temps de jeu. À voir ce que ça va donner. Maintenant, c'est s'il y a des matchs là en poule, tu peux faire tourner, parce qu'a priori, on en parlera après, mais l'Indonésie est favorite. Maintenant, en sortie de poule, est-ce que tu peux te permettre de te passer de Gideon Sukamulio? Ça va être un autre débat, et à mon avis, la réponse est non.
Bah ça, ouais, on verra. Mais c'est vrai que quand tu peux te permettre d'aligner Carnando Martin, qui sont les jeunes qui montent, et après t'as trois paires qui sont dans le top 10 mondial, tu peux te permettre pas mal de possibilités. Dans ce groupe, on retrouve aussi Taïwan. Taïwan avec un retour majeur, Benoît, c'est celui des champions olympiques Li Wang, qui n'ont pas joué depuis leur titre olympique justement, et qui ont surtout raté la Sudirman Cup. Quand tu vois que tu as aussi Shu Tianchen, et notamment Wang Tsui-wei, c'est vraiment pas mal ce qui peut se passer là.
Ah ben eux, je crois que de toute façon, Li Wang, ils viennent pour gagner la Thomas Cup. Non, honnêtement, l'équipe est loin d'être ridicule. Même ton double homme 2, du coup, il a quand même... Là où à la Sudirman, avec sans Li Wang, c'était un peu compliqué, là, ton double homme 2, il a de la gueule. La seule incertitude, j'ai envie de te dire que ce sera ton simple homme 3, parce que là, vraiment, pour le coup, ça va être très compliqué. Mais effectivement, je pense que Taipei peut clairement avoir des ambitions sur cette Thomas Cup.
Ah ouais, ils auraient tort de ne pas en avoir. C'est vrai que l'équipe, sur le papier, est vraiment très très bonne. Alors, je pense que c'est la meilleure qu'ils aient jamais eue, donc à voir ce que ça va donner, parce qu'effectivement, ça donne envie d'être vu, une équipe pareille. La troisième équipe, l'Algérie, on va pas s'attarder, parce que déjà ils ont moins de joueurs, ils en amènent que 4 a priori. C'est des joueurs qu'on connaît quand même, hein, Youssef Sabri Medel, Kossiel Amameri, Mohamed Belarbi et Adel Amek, donc c'est des joueurs... qui peuvent jouer en simple ou en double. C'est quand même plutôt des joueurs corrects, mais il y aura quand même une trop grande, je pense, différence de niveau par rapport à ce qui est en face, surtout vu la poule où ils sont tombés.
Oui, j'ai juste une interrogation sur le nombre de joueurs que l'Algérie amène, parce que 4 joueurs, ça me paraît très très short. Alors, est-ce que c'est l'équipe officielle à 3 jours de la compétition? J'espère que oui, mais je suis quand même surpris, parce que 4 joueurs, ça veut dire que t'en as au moins 3 sur 4 qui vont jouer en simple et ils vont tous jouer en double. Je sais pas trop quoi en penser. Après, oui, c'est des joueurs qu'on connaît, on connaît leur niveau. Effectivement, quand on voit cette poule, je sais pas ce que t'en penses, mais ça va être compliqué.
Clairement. Même si ça aurait été compliqué contre beaucoup d'équipes, mais là, ils ont particulièrement pas été vernis, les Algériens. Et la quatrième équipe, c'est la Thaïlande. Alors là aussi, c'est vraiment pas mal. Hein. En simple, on a notamment du Wang Charoen, du Vitit Sarn. Et en double, c'est des paires qu'on connaît moins. On connaît quasiment aucun joueur, même s'il y a quand même Poivaranoukro, le joueur de mixte. Lui, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Mais à la Sudirman, ils nous ont surpris la semaine dernière, les Thaïlandais en double homme. Donc c'est assez prometteur, je trouve.
Ouais, Jomko Kedren, ils seront là. Hein, donc honnêtement, après, c'est compliqué. Bah, ça va être ton double homme 1 maintenant. Je pense que... Il y a 2-3 paires qui les ont vu jouer la semaine dernière et qui n'ont pas envie de se refaire piéger. Après, en simple, c'est très très correct, même plus que correct. Et ton simple homme 3, c'est notre joueur préféré, Avin Sanon, qui ressort de un peu nulle part et qui, franchement, en simple homme 3, ça a quand même... je suis pas fan du joueur, mais ça a quand même fière allure. Après, à voir...
Ouais, il a été top 20 mondial.
Ouais, quoi, c'est clair. C'est sérieux. Pas mal. À voir ce que va faire Poivaranoukro. Moi aussi, je suis curieux de savoir s'ils vont le faire jouer, tu vois.
Bah ouais, parce que typiquement, moi je trouve ça toujours marrant de voir des joueurs de mixte dans des équipes qui sont justement pas mixtes, parce que du coup tu vois ce que tu vas en faire. Nous on a le cas avec Tom Jikel, eux ils ont pu avoir Anukro, il y a des pays, typiquement l'Indonésie, ils peuvent se permettre de pas prendre Pravin Jordan, surtout vu sa forme actuelle, mais ils ont tellement de réservoirs, alors que la Thaïlande peut pas se le permettre. Mais c'est quand même un énorme atout d'avoir un gars qui est top 3 mondial en mixte. Je pense qu'il jouera le double homme 2 potentiellement. Tu le mets avec n'importe qui, ça élève la paire déjà, quoi.
Bah, j'ai tendance aussi à le penser. Après, la différence, c'est quand même que Tom Jikel, l'équipe de France a essayé de le faire jouer un double homme sur le circuit. Ça n'a pas continué, mais pour avoir un Anukro, moi, j'ai pas souvenir qu'on l'ait vu. Après, je suis pas inquiet sur le fait que le gars soit quand même capable, en étant top 3 mondial en double mixte, de jouer un double homme. Ouais.
Ouais, bah là, justement, je découvre aussi, il a été champion du monde junior avec Kedren en double homme.
Ok.
Donc, peut-être qu'ils retesteront ça, je sais pas, mais... Ouais, en tout cas, curieux de voir ce que ça va donner. Benoît, un petit pronostic de ta part. Moi, j'ai envie de dire, la Thaïlande, c'est très prometteur, mais malheureusement, quand t'as Taïwan et l'Indonésie dans ton groupe, j'ai peur que ça passe pas.
Eh ben, je crois que je vais te rejoindre. Je sais pas exactement quel sera ton classement, tu vas nous le donner, mais je vois bien Indonésie, Taïwan, Thaïlande en 3 et qui passera pas, malheureusement, même si je pense que ça peut être un très beau match contre Taipei et Algérie en 4e position.
Ouais, j'ai le même classement et le même sentiment, c'est-à-dire que la rencontre qui va valoir son pesant de cacahuètes, c'est vraiment le Taïwan-Thaïlande, parce que c'est là que va se jouer la qualif. J'ai envie de dire, je pense que si on va un peu dans le détail, Xu Tianshen peut gagner son match, mais derrière, Viti Tsarn, pour moi, il peut battre Wang Tsuwei. Après, au niveau du simple homme 3, ça peut le faire. Et après, faudra gagner ton double homme 2 pour la Thaïlande.
Le problème, c'est que même Xu Tianshen, honnêtement, en simple homme 1, il peut perdre. Hein. Maintenant, je vois pas comment tu peux gagner le double homme 1, même si on l'a dit, les Thaïlandais sont en forme. Et honnêtement, si c'était que moi, j'aurais tendance à voir deux simples tomber côté Taïwan. Après, franchement, cette rencontre, elle peut clairement faire 3-2 d'un côté ou de l'autre. Ce serait une mini surprise, mais moi, ça me surprendrait qu'à moitié. Je sais pas ce que t'en penses, que Taïwan se fasse taper 3-2, en fait, et ce soit l'énorme surprise de cette poule.
Ouais, surtout que t'es obligé de mettre les joueurs dans le classement qu'ils ont, mais ce qui est bien avec le double, c'est que tu peux magouiller un peu. Typiquement, Kedren, Poivar, Anukro, ils sont champions du monde junior à 2, mais ils ont pas de classement. Ça veut dire que, imagine, t'envoies la deuxième paire thaïlandaise, tu l'envoies au casse-pipe contre Li Wang, et derrière, t'as un double homme 2 super fort que tu peux gagner, quoi. Donc ça peut être une stratégie, par exemple.
À voir, parce que ça peut aussi... J'imagine mal Taipei le faire, mais oublions pas que Lili ont joué ensemble et ont été top 15 mondiaux. Wang Chilin a déjà eu un autre partenaire. Maintenant, j'imagine mal Taïwan séparer Li Wang.
Bah, c'est vrai que quand t'as la paire championne olympique et la plus forte du moment, oui. Après, ils peuvent les séparer dans des matchs comme ça, et quand tu joues l'Indonésie, les mettre ensemble pour être sûr de rapporter un point. C'est ça qui est bien quand t'as des joueurs comme ça et un bon réservoir, c'est que tu peux te permettre de faire des petits ajustements en fonction de l'adversaire. Hâte de voir ça, en tout cas, cette poule, elle va être vraiment sympa. Hein.
Bah, clairement, je pense qu'on va se régaler.
Et on va passer tout de suite à la poule C. Look at this, look at that. Alors, dans cette poule C, on retrouve la Chine, l'Inde, les Pays-Bas et Tahiti. On va commencer par la Chine, qui vient de gagner la Sudirman Cup. Donc, dans les joueurs de simple, on retrouve notamment Xiu Shi, Lu Ganzu, Li Shifeng. Et après, les paires de double. Alors, on aura Etan, ou alors Tan Zhu, ça dépend. Peut-être la nouvelle, nouvelle paire Liu Wang. Il n'y a toujours pas de Liliu, il faut le préciser. Mais ça reste une équipe vraiment pas mal, cette équipe chinoise.
Oui, je pense qu'elle est quand même beaucoup plus faible proportionnellement que celle qu'il y avait à la Sudirman, pour la simple et bonne raison que déjà en simple homme, à part Xiu Shi, quand tu vas jouer des gros matchs, ce sera peut-être pas le cas en poule, mais tu vas prendre au mieux un simple. J'ai du mal à imaginer que tu puisses en prendre 2 voire 3. En double homme, c'est pareil. À la Sudirman, t'arrivais à bricoler une paire, mais là, il faut bricoler deux paires avec des joueurs qui commencent à jouer ensemble. Si on prend les individualités, oui, il y a une belle équipe. Maintenant, j'ai un peu peur que ce soit compliqué, sachant que voilà, il manque Chen Long, il manque Li Liu, il manque potentiellement Zheng Ziwei qui rend des services aussi. J'ai l'impression que ça va être compliqué et que encore ils vont bricoler sur les doubles hommes. Je sais pas ce que t'en penses pour la Chine.
Ouais, moi j'ai l'impression qu'ils vont bricoler, mais qu'ils vont quand même s'en sortir. Bon, déjà, ils vont sortir très facilement de cette poule parce que ils ont une poule très facile. Mais je pense que ça suffira pour aller au moins en demi. Après, on verra. Mais typiquement, t'as des joueurs d'une qualité à partir du moment. À partir du moment où t'as Wang Liu, même s'ils n'ont jamais joué ensemble, ça reste une paire exceptionnelle, deux joueurs exceptionnels. Donc, je m'en fais pas trop pour la Chine, qui gardera peut-être pas son titre, mais qui sera loin d'être ridicule en tout cas, et qui a de bonnes chances d'aller en demi ou en finale. Alors, l'Inde, c'est un pays, j'ai l'impression qu'on en parle vraiment beaucoup, parce qu'on a l'impression que, surtout en simple, c'est compliqué. Pourtant, c'est des noms qu'on connaît très bien, hein, Benoît. Les trois joueurs de simple, a priori, ce sera Srikant Kidambi, Sai Pranet et Samer Verma, donc des joueurs qu'on connaît très bien. Et derrière, leur paire numéro 1, si elle est là, puisqu'elle n'était pas là en Sudirman alors qu'elle avait été annoncée, ce sera Ranki Reddishetty. Derrière, c'est un peu plus compliqué, potentiellement Aryun Kapila. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe indienne ?
C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'Inde et que c'est un peu devenu notre nouveau bouc émissaire, mais bon, en même temps, il faut avouer quand même que l'Inde n'est pas très performante. Je pense que moi, que Kidambi et Sai Pranet vont jouer en double. Non, plus sérieusement, je sais pas.
Bah, en vrai, c'est possible, hein. Ils ont joué tous les deux en mixte à la Sudirman, alors pourquoi pas.
Je sais plus à quoi m'attendre avec eux. A priori, effectivement, on a une équipe type qui se dégage. Maintenant, en vrai, sur le papier comme ça, t'as envie de te dire, ouais, elle a un peu de gueule cette équipe, mais quand tu vois la forme des joueurs, moi, ta seule certitude, c'est Ranki Reddishetty, quoi. Et après, on espère qu'ils seront pas trop mauvais, en vrai. Enfin, je sais pas ce que... Peut-être ça paraît dur, mais moi, c'est comme ça que je le vois.
Ouais, après, même si c'est des joueurs pas en forme, pour le coup, eux, ils ont l'avantage d'avoir un niveau assez resserré en simple, ce qui fait que Verma, en simple 3, c'est loin d'être dégueu, tu vois. Et même Pranet, le gars, il revient des JO... Il a beau avoir pas fait des JO exceptionnels, on est sûr qu'ils vont sortir de poule, ça c'est certain. Mais c'est quand même, en simple, ça peut leur servir, tu vois, parce que si tu te débrouilles bien et que tu gagnes les trois, bah t'as pas besoin de tes doubles. Et surtout quand un de tes doubles c'est Ranki Reddishetty, eux, jusque-là, ils peuvent voir venir. Après, c'est vrai que bon, le double 2, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais ils ont quand même une bonne équipe de Thomas, l'Inde.
Ouais, sur le papier, je te rejoins. Maintenant, j'ai quand même très très peur. Et moi, je me dis que les Pays-Bas, quand ils voient ça, même s'ils disent que sur le papier, ils sont pas favoris, s'ils ont vu, et j'imagine qu'ils ont vu ce qui s'est passé à la Sudirman, les Pays-Bas, pardon, peuvent peut-être y croire un peu. Je sais pas.
Je sais pas si tu l'as vu, mais Marc Kaliou ne participera pas, il est forfait. Parce qu'il est toujours touché au dos. Donc on va transition vers les Pays-Bas. Du coup, ce sera Quickel qui jouera en simple homme 1. Derrière, leur paire numéro 1, je pense qu'il y aura Ruben Nieleux, notamment avec Van der Leck. Mais en plus, t'as pas leur meilleur joueur de double. Je trouve que cette équipe des Pays-Bas, pour le coup, elle est pas ouf, quoi.
Du coup, effectivement, on pourrait croire que j'ai pas préparé l'épisode, hein, mais effectivement, j'ai.
C'est sorti hier, ouais, je crois. Mais... C'est sorti hier ou aujourd'hui. On enregistre quelques jours avant le début de la compétition. Oui, ils ont pas de Robin Tabeling en plus. Ça, je trouve ça assez étonnant. Je vais aller vérifier qu'il est bien absent, mais pour le coup, c'est vrai que ça doit être assez. Ouais, non, c'est ça, pas de tabling. Du coup, c'est dommage parce qu'en fait, ils ont pas leur meilleur joueur, en fait, les Hollandais.
Effectivement, du coup, oui, il fait tabling et puis la retraite de Mas aussi, c'est une des premières compétitions sans lui. Pas de Marc Kaliou, effectivement, du coup, ça a moins de gueule sur le papier parce que Joran Quickel, ça fait l'affaire en simple homme 2, mais là, effectivement, ouais, je me suis peut-être un peu avancé sur les Pays-Bas et que du coup, on va en parler après, mais l'équipe risque de souffrir un peu plus. Et malheureusement, j'ai envie de te dire, parce que je pense qu'ils auraient eu un peu plus fière allure avec une équipe au complet.
Oui, effectivement, Marc Kaliou qui devait participer, mais qui a finalement déclaré forfait parce qu'il est toujours touché au dos. Et dans cette poule, il reste Tahiti, qui n'avait pas pu faire grand chose avec ses armes à la Sudirman. Et bon, Benoît, je pense que ça devrait être à peu près la même chose dans cette Thomas Cup.
Bah, ce sera la même chose, même s'ils n'ont pas hérité de la poule la plus relevée. Honnêtement, difficile de nourrir des ambitions. Je pense que pour eux, voilà, c'est encore une fois, c'est, c'est profiter de l'événement qu'ils vont vivre, se donner au max, mais en termes de performance, je vois pas ce qu'on peut espérer. On aura l'occasion de voir Rémy Rossi pour les fans de top 12 qui ont pu le voir à l'œuvre à Oulin, si je dis pas de bêtises. Voilà, il sera dans l'équipe de Tahiti.
Alors Benoît, le pronostic, moi je vais donner le mien, je pense que c'est une des poules les plus faciles à pronostiquer. Je vois pas trop comment ça ne pourrait pas faire Chine 1, Inde 2, Pays-Bas 3, Tahiti 4.
Eh ben écoute, je te rejoins totalement, donc je vais pas en rajouter sur le classement de cette poule.
Pour le coup, pas très compliqué à pronostiquer, on passe tout de suite à la poule D.
Oh my goodness!
Alors la poule D, Benoît l'a dit en introduction, une poule un peu amputée, et c'est dommage, hein, parce que l'Angleterre a déclaré forfait de dernière minute à cause de blessures. Ils ont pas annoncé, si je ne me trompe pas, quels joueurs se sont blessés, mais du coup, pas d'équipe anglaise. Alors, il y a quand même trois équipes, du coup, Japon, Malaisie et Canada. On commence par le Japon, et bah, le Japon, c'est vraiment pas mal. Hein. Momota, Tsuneyama, Nishimoto, c'est trois joueurs de simple qui sont top 15 mondiaux et qu'on connaît très bien. Les doubles, ça va être la grande nouveauté, parce qu'on a du Oki Kobayashi, on a du Koiga Sato, ces deux paires-là, on les a vus à la Sudirman, et derrière, on a deux joueurs tout seuls, puisqu'ils n'ont plus de partenaire, donc Kaneko, qui jouait avec Inoue, et Watanabe, qui jouait avec Endo.
Juste pour revenir sur l'Angleterre, c'est les trois des quatre joueurs de simple sont blessés, donc effectivement, ça paraissait compliqué de venir. Le Japon, ouais, vraie équipe. Tu l'as pas cité, mais il y a Kodai Naraoka aussi en simple. Petit jeune, il me semble qu'il avait fait médaille aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Il a plusieurs médailles sur des mondiaux juniors et tout. Je sais pas s'il aura du temps de jeu, mais j'imagine que c'est pas impossible sur des rencontres où t'es largement favori et tu sais que tu vas t'en sortir. Après, clairement.
Koki Watanabe aussi, qui avait gagné à Orléans, on avait eu l'occasion de le voir. Pour des simples 4 et 5, c'est vraiment pas mal.
Non, c'est clair. Cette équipe, elle a vraiment de la gueule. J'ai hâte de voir en fait ce qu'ils vont nous faire en double. Mais honnêtement, tu l'as bien dit, je trouve. Cette équipe, elle a vraiment de la gueule. Comme à la Sudirman, en fait. Le Japon, clairement, sera un prétendant à la victoire finale. Même si peut-être qu'on en discutera après, mais il y a des équipes un peu plus fortes, mais ils ont une vraie équipe.
Ouais, la principale interrogation, ce sera la place de Yuta Watanabe. La facilité, ce serait de le mettre avec Kaneko, puisque c'est l'autre joueur de double qui n'a pas de partenaire. Mais c'est vrai que. T'as quand même, avec Oki Kobayashi et Koiga Saito, t'as déjà deux paires dont tu connais un peu à l'avance le niveau et qui sont déjà installés, quoi. Mais comme dans beaucoup d'équipes, difficile de te passer de Watanabe.
Bah, on imagine que... Je sais pas, en fait. À partir du moment où tu l'amènes, c'est un peu le même débat qu'avec Tom Jikel ou Poivar Anucro. J'estime que si tu les amènes, les deux en plus, c'est pour les faire jouer. Donc, sachant que Kaneko, il n'y a pas Inoue, il me semble, si je dis pas de bêtises, donc ça veut dire tu l'as.
Non, il est
voilà,
pas là.
Si t'amènes les deux, si c'est pas pour les faire jouer, j'ai du mal à comprendre le choix, et peut-être que du coup, ce serait un potentiel début de partenariat, je sais pas.
On passe à la deuxième équipe de la poule, la Malaisie. Alors, bah, le simple homme numéro 1, il est très connu, c'est Lizidia. Derrière, c'est un peu moins connu. Et donc, on aura Chiasso en paire numéro 1. Derrière, pas de Hong Teo, mais je pense qu'on aura donc Go Izudin en paire numéro 2. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Malaisie qui a été la bonne surprise de la Sudirman? Là, ça va être compliqué. Une fois que tu seras sorti de poule, ça va être compliqué d'exister, je pense, pour la Malaisie.
Là, l'objectif pour la Malaisie, ça va être survivre le plus longtemps possible en gagnant le simple homme 1 et le double homme 1. Je sais pas ce que t'en penses, sans paraître dur avec la Malaisie, j'ai l'impression que c'était seule certitude et que Hong Teo en double homme 2 ça aurait pu faire l'affaire, mais là effectivement pas de certitude. Simple homme 2, simple homme 3, par rapport à d'autres pays, ça risque d'être très compliqué après la sortie de poule.
Ouais, bah j'ai le même avis, hein. T'as Lizidia qui est sur un nuage en ce moment, Chiasso qui ont été pas mal. Mais derrière, le problème, et j'ai l'impression que c'était un peu pareil de l'époque de Lee Chong-wei, en fait. Ton problème, ce sera, à l'époque, t'avais Lee Chong-wei et Gotan. Maintenant, t'as Lizidia et Chiasso, mais derrière, c'est toujours le même problème, c'est la profondeur, en fait.
Ah ben, pour le coup, c'est clairement ça. À la Sudirman, là où t'as survécu un peu parce que t'arrives à avoir un joueur sur chaque tableau, le problème, il est que quand t'es sur une compétition où les filles et les garçons sont séparés, bah t'as toujours un joueur sur chaque tableau, mais derrière c'est trop compliqué en fait d'avoir une profondeur d'effectif.
On passe au Canada, dernière équipe. Alors, Brian Young, Jason Oshue et Sankers en joueur de simple. Derrière, la paire numéro 1, ce sera Oshue et Yakura, qui sont quand même 31e mondiaux. Derrière, ce sera compliqué. L'équipe du Canada, pour moi, elle n'est pas ridicule et elle aurait pu battre d'autres équipes dans d'autres poules. Bon, là, ça sera compliqué contre la Malaisie et le Japon, mais c'est des joueurs, j'ai quand même envie d'un peu de voir ce que ça donne.
Bah, clairement, pareil, y a des joueurs que je ne connais pas. Donc, je pense à Sharon et Tétro surtout. Après, ouais, c'est une équipe qui a quand même des bons joueurs. Donc, dans cette poule, effectivement, tu les imagines mal gagner un match même. Mais dans notre poule, ils auraient pu, je dis pas sortir de poule, mais ils auraient pu avoir ouais, une carte à jouer au moins sur un match, quoi.
Benoît, au niveau du pronostic, est-ce que... En fait, je pense que le Canada finira dernier, tu l'as dit aussi. Est-ce que pour toi, la Malaisie peut inquiéter le Japon? Imagine que Lizidja... D'ailleurs, Lizidja va jouer Momota pour la troisième fois en moins d'une semaine, enfin en une semaine à peu près. Est-ce que s'il rebat derrière, tu vois la Malaisie battre le Japon ou pour toi, c'est impossible?
Non, pour moi, c'est impossible. Et d'ailleurs, je ne suis pas convaincu que Momota joue ce match, en fait. À partir du moment où... Enfin, je sais pas si le Japon et toi, vous avez la même configuration que moi, mais je pense que ce simple homme 1 ne changera rien, en fait. Que tu le gagnes ou que tu le perdes, parce que derrière, t'es sûr de prendre... Enfin, t'es sûr. A priori, tu prends deux simples et au moins un double, donc pas forcément utile de griller Kento Momota qu'on a vu fatigué. Je sais pas ce que t'en penses.
Bah, c'est vrai qu'à partir du moment où tu joues Lizidja, quand t'es Momota, que tu gagnes ou que tu gagnes pas, tu sais que tu vas forcément y laisser de l'énergie, déjà, parce que lui, il va rien te lâcher. Ça peut être une stratégie. Après, imagine tu perds celui-là et a priori tu perds le match contre Chiasso. Derrière, faut pas se rater parce que le classement auquel tu termines a un effet sur qui tu tires. Donc si tu finis premier, tu joues un deuxième. Je sais pas si le Japon est prêt à prendre ce risque en fait.
Moi perso, j'ai tendance à penser qu'ils le prendront et que la rencontre contre Chiasso est pas d'ailleurs perdue, hein, puisque Oki Kobayashi les ont battus, même s'ils partiront pas favoris. Moi je pense que le Japon, après peut-être qu'il jouera que ce match, Momota en poule aussi, et a priori c'est possible vu qu'il y a déjà que trois rencontres, enfin que deux rencontres, pardon, donc je sais pas, mais en tout cas c'est une possibilité.
Très bien. Eh ben, c'est tout pour ce tirage. Benoît, j'ai pas vraiment de conclusion, à part qu'on a hâte d'y être, parce que les effectifs sont quand même bien remplis, malgré l'absence de quelques joueurs.
Bah, clairement, hein, j'ai envie de te dire et de vous dire rendez-vous samedi et que les hostilités commencent.
Voilà, parce que là, c'est vrai que quand tu regardes le classement, à part notamment Nge Kalong ou Chen Long, typiquement en simple homme, il y a vraiment quasiment tout le monde, et c'est un peu pareil pour le double homme. Donc voilà, je rappelle qu'on va faire la même chose pour l'Uber Cup, donc n'hésitez pas à aller écouter cet épisode, on va notamment bien s'attarder sur l'équipe de France, donc ce sera en ligne le lendemain. Benoît, merci d'avoir participé.
Merci à toi, Ewan. Et j'ai une petite question pour finir. Je le fais pas souvent, mais est-ce que tu as un favori pour la compétition? J'ai quand même envie de t'entendre là-dessus.
Ah, alors.
Le piège.
Je pense que s'il n'y avait pas eu la Sudirman Cup la semaine dernière avec les résultats qu'on connaît, je t'aurais dit l'Indonésie. Parce que, voilà, typiquement, quand tu commences une compétition par équipe, tu dis toujours la Chine. Sauf que là, la Chine, ils ne sont pas si fort. Donc je vais te dire, tu me poses une colle, je vais te dire le Japon, moi je les vois bien gagner parce qu'en simple ils sont ultra forts les Japonais.
Je pense que ça peut être la finale rêvée Japon-Indonésie. Et écoute, moi je vais dire l'Indonésie pour se racheter parce que je les voyais bien prendre la Sudirman et ils m'ont déçu en tout cas.
Voilà, bah moi je pense que l'Indonésie a la meilleure équipe mais qu'ils n'ont pas les joueurs les plus en forme du moment. Et si je devais mettre un petit outsider, moi je dis attention à Taïwan qui a quand même une très belle équipe.
Oui,
et
puis la confiance de certains joueurs va aider tout le groupe, je pense.
Exactement. Donc voilà, rendez-vous à la fin de la compétition, c'est-à-dire ça finit le 17, donc rendez-vous le 18 octobre pour le débrief de cette compétition. Sur ce, continuez de nous écouter sur 21 Shuttle parce qu'on a pas mal de trucs prévus pour vous avant cette fin d'année 2021. À la prochaine.
把我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头，我们的梦握在手中。